une fois le Seigneur. Amen. Seigneur, te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que nous avons entendu. Seigneur, tu nous as fait du bien, Seigneur, au travers de ces chants. Seigneur, pour l'action du Saint-Esprit, entendre, Seigneur, la voix de nos frères, de nos sœurs qui s'élèvent, Seigneur, pour élever le nom de Jésus. Combien cela est merveilleux, Seigneur. Nous te rendons grâce pour toutes ces choses. Seigneur, nous voulons également être instruits par ta parole, Seigneur, afin que celle-ci produise en nous, Seigneur, un effet productif, produise du fruit, nous permette d'aller de l'avant avec toi, Seigneur, et dans les temps dans lesquels nous sommes, combien nous avons besoin d'être fortifiés, d'être enracinés en toi. Seigneur, à toi toute la gloire, dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais aller avec vous, si vous voulez bien, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5e et au verset 7. Épître aux Hébreux, chapitre 5 et le verset 7. Et même on pourrait aller au verset 4, comme ça on aura une phrase en entier. Voilà. Vous êtes heureux d'être dans la maison du Seigneur ? Bonjour à toutes celles et ceux qui sont de passage au milieu de nous. Voilà, on a des amis, voilà, qui viennent, voilà, du Mali, on a salué tout à l'heure, gloire à Dieu. Voilà, on lit chapitre 5 et verset 4, il nous est dit ceci, « Nul ne s'attribue cette dignité, c'est-à-dire d'être souverain sacrificateur, c'est-à-dire de faire des sacrifices devant Dieu pour le peuple. » Et là, l'auteur renvoie au souverain sacrificateur qui était chargé de faire ça, eh bien pour le peuple d'Israël. Et s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron, le premier souverain sacrificateur. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek ». C'est lui, donc Jésus, qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Nous avons beaucoup à dire de choses, nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Allez, je lis pour que. Parce que nous sommes devenus lents à comprendre. Nous, en effet, qui, depuis longtemps, devrions être des maîtres. Nous avons encore besoin qu'on nous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Nous en sommes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé, par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais vous parler ce matin de cette nourriture dont il nous est parlé, la nourriture solide. Vous avez remarqué qu'il nous est dit dans ce texte de la parole de Dieu, vous en êtes venus, et je voudrais m'associer aussi, parce que la parole de Dieu, elle s'adresse à chacun d'entre nous, moi y compris, bien entendu. Nous en sommes venus donc à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Si vous vous souvenez, l'épître l'épître aux Hébreux s'adresse à des croyants d'origine hébraïque, donc des gens qui ont connu, plutôt étaient dans le judaïsme, étaient juifs donc, et puis on leur annonçait la bonne nouvelle de l'évangile, à savoir que l'espérance du peuple d'Israël, pas simplement pour Israël mais pour toutes les nations, c'est-à-dire Christ Jésus, est venu, alléluia. Et au travers des Écritures, ils ont vu combien cela correspondait à l'annonce des prophètes, alléluia, Ésaïe 53, l'homme de douleur et de souffrance, celui qui a vaincu la mort, alléluia, c'est Jésus, c'est le Christ, et avec joie, ils ont accepté Jésus. Et puis, dans le parcours de leur vie, ils se sont aperçus, quand on marche avec le Seigneur, il y a aussi des épreuves, il y a aussi des choses qui sont là devant nous, et l'épître aux Hébreux va leur permettre de réagir. Et ici, l'Écriture nous les met en garde contre de l'indifférence, contre de la négligence, contre de l'incrédulité, contre de la désobéissance, et ici, là particulièrement, du danger de rester stationnaire. On en sait suffisamment, on en reviendra tout à l'heure. Voilà, j'ai été bien nourri. Oui, mais ce que tu as reçu jusqu'à présent, c'est du lait. Tu as besoin d'une nourriture qui soit solide, qui soit consistante, qui soit profonde, qui puisse te fortifier. On ne veut pas négliger le lait. Je crois qu'il y en a plusieurs au milieu de nous qui aiment le lait, peut-être au petit déjeuner ce matin. Vous avez bu du lait, etc. Mais imaginez que je donne à François du lait le matin, mais du lait à midi, ce soir du lait, et encore demain je recommence. Il va dire, j'ai besoin d'un canard aux olives. voilà, et c'est facile. Voilà. J'ai besoin d'une nourriture consistante, alléluia, et de quelque chose qui me fortifie. Puis entendre des athlètes, alors je crois que c'était plus au niveau du muscle, dans les salles de musculation, etc., disent, mais si tu veux prendre du muscle, il faut que tu manges aussi. Voilà, pour que tu puisses développer du muscle, il faut aussi que tu reçoives de la matière, et il faut manger. Et pour que tout cela puisse se développer. Et de la même manière, en ce qui nous concerne, nous avons besoin de grandir. S'il y a des lois qui s'appliquent normalement dans la loi naturelle, un enfant grandit, il y a une croissance normale. Dans le domaine spirituel, il faut le désirer. Parce que nous découvrons, et l'Écriture le dit, certains en sont au lait, et d'autres en sont à manger de la nourriture solide, et notamment l'auteur de l'épître aux Hébreux. Et nous aussi, mes frères et sœurs, nous avons besoin de grandir, nous avons besoin de désirer une nourriture solide. Merci Seigneur, nous allons y revenir, pour les fondements de la foi. Mais Seigneur, j'ai besoin d'une nourriture solide. La semaine dernière, on a parlé que notre rocher Christ, il était solide, alléluia. Mais il veut nous donner également une nourriture qui soit solide, qui soit capable de faire de nous des hommes et des femmes arrivés à pleine maturité. Alors on va parler de la nécessité de cette nourriture solide. Nous allons voir que nous pouvons négliger un aliment solide, et cela peut nous entraîner des désagréments notables. Et puis nous allons voir que j'ai besoin d'avoir faim de cet aliment. J'ai besoin de désirer, tu as besoin de désirer une autre nourriture. La faim de Christ, Seigneur, j'ai faim de toi, alléluia. Je veux encore plus de toi, amen, alléluia. Alors tout d'abord, vous dire que la nécessité de cette nourriture solide, le contexte de cet enseignement que nous avons lu là, en quelques mots, nous parle de Jésus. Et on va y revenir dans quelques instants, mais lorsqu'il nous est parlé du Seigneur qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, a prié avec de grands cris, des larmes, des prières, des supplications, il nous est fait vraiment référence à ce qui s'est passé à Gethsémané, lorsque le Seigneur, pétri d'angoisse, a pu prier le Seigneur. Alors c'est vrai qu'en ce qui nous concerne, nous sommes heureux d'avoir rencontré le Seigneur. Nous bénissons Jésus pour la croix du calvaire, alléluia. Et nous l'avons chanté tout à l'heure, attaché à la croix pour moi. C'est vrai, rien, Seigneur, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, parce que nous avons été rachetés, amen, alléluia. Jésus est vivant, il est ressuscité. Dieu n'est pas contre nous, il est pour nous. Amen. Et comment est-ce qu'on peut le savoir ? Parce qu'il a donné Jésus, alléluia. Nous n'avons pas en Dieu un adversaire, mais nous avons un Père céleste qui nous a donné un avocat pour plaider en notre faveur, alléluia. Et lorsque nous étions des pécheurs, il est venu nous chercher pour nous sauver. Alors à combien plus forte raison maintenant que nous sommes lavés et purifiés de tout péché, ne nous lâchera-t-il pas ? Ne nous abandonnera-t-il pas ? Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que nous sommes heureux. Et même si parfois, et ça nous est arrivé, eh bien d'avoir quelques faiblesses, de défaillir, mais le Seigneur ne nous a jamais abandonnés. Alléluia. Il nous a restaurés, il nous a rétablis, il nous a fortifiés. Et nous voulons le bénir et le glorifier. Quelle grâce ! Alléluia ! Et je voudrais dire à quelqu'un au milieu de nous, si tu n'as pas, eh bien, reçu la grâce de Dieu, mais accepte-la, parce que Dieu pardonne encore. Amen. Dieu libère encore. C'est une bonne nouvelle, l'Évangile. Alléluia. L'apôtre Paul pourra dire, eh bien, qu'autrefois, eh bien, il agissait dans l'ignorance, il agissait, eh bien, dans l'incrédulité. Mais il dira ceci, c'est une parole entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier, dira-t-il. Je suis le pire. J'ai persécuté l'église de Jésus. Je croyais, j'étais derrière un habit de religion. Je parlais de Dieu, de Yahvé. J'étais irréprochable, mais mon cœur était rempli de haine, de meurtre. Et Dieu m'a aimé quand même. Alléluia. Et malgré toute ma haine, eh bien, il m'a pris tel que j'étais. Il m'a confondu dans son amour. Et Saul de Tarse est devenu l'apôtre Paul. Alléluia. Un homme de Dieu qui pourra parler de l'amour. Alléluia. De l'amour de Dieu envers lui. Amen. Alléluia. Et ça, c'est merveilleux. Mais je voudrais vous dire, mes chers frères et sœurs, pour revenir eh bien, à l'aliment solide, eh bien, c'est que pour arriver à cela, le Seigneur a accepté une nourriture solide. L'Écriture nous dit, je reprends dans ce que nous avons lu dans donc, Hébreux au chapitre 5, eh bien, au verset 8, il nous est dit ceci, donc je retrouve mes pages. Voilà, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Vous voyez la relation ? Pour devenir l'auteur d'un salut éternel pour nous, il a accepté d'être brisé. Il a accepté d'entrer dans l'obéissance et l'Écriture nous dit, bien qu'il fût fils, eh bien, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Je voudrais aller avec vous dans l'Évangile selon Marc maintenant, au chapitre 14, pour voir en détail ce qui s'est passé pour le Seigneur, au chapitre 14 et au verset 32, si vous voulez bien, 14, 32, voici ce qui nous est dit. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané. Gethsémané, littéralement, pressoir à huile. La chair de l'olive est écrasée et il en ressort de l'huile. Et l'huile, c'est, dans l'Écriture, nous parle du, vous le savez, bah, dites-le, le Saint-Esprit. Eh oui, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi l'huile ? Parce que l'huile, c'est quelque chose de permanent. Quand il fait chaud, elle ne s'évapore pas, elle reste. Alléluia, c'est l'action permanente de Dieu dans notre vie. Amen. Mais l'Écriture nous dit que pour que cette huile, eh bien pour que l'action de l'Esprit domine dans notre vie, il faut que la chair, elle soit écrasée, le pressoir, soit pressée. Voyez, j'ai été crucifié avec Christ, Galates 2:20. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Donc, nous continuons, Gethsémané, et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici, pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Et il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. C'est vrai, toutes choses sont possibles. Toutes choses te... Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, Simon, il n'appelle pas Pierre, hein, il appelle Simon. Hein, tu dors ? Tu n'as pas pu veiller une heure ? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Amen. Donc, nous comprenons que si Jésus est devenu ce qu'il est devenu, eh bien, le sauveur du monde, le sauveur, l'auteur d'un salut qui est éternel, il a fallu qu'il passe par ce brisement lui aussi. C'est l'homme parfait. C'est celui qui a toujours accepté le Seigneur, eh bien, d'être brisé dans sa chair pour accomplir la volonté de son Père. Alléluia. Et dans toute la conduite de son ministère terrestre pendant ces 3 ans, eh bien, qui nous sont relatés dans les évangiles, nous voyons que, eh bien, en ligne de mire, pour le Seigneur, c'est Golgotha. S'il naît, c'est pour Golgotha. S'il fait des miracles, c'est pour Golgotha. S'il enseigne, c'est pour Golgotha. C'est pour donner sa vie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est en vertu de ce sacrifice, mes frères et sœurs, eh bien que nous sommes sauvés. Voulons remarquer néanmoins, eh bien que à l'égard des disciples, il y a eu quand même un sommeil. Ils aimaient Jésus. Et je crois qu'ils en étaient au lait. Ils aimaient le Seigneur. Mais lorsque le Seigneur leur demande de veiller, de prier, lorsqu'il leur fait part de ses angoisses, étonnant ça, hein, que le Seigneur ait eu des angoisses. Alors peut-être que si nous avons dit à quelqu'un un jour, un chrétien ne doit pas avoir d'angoisse, Jésus en a eu. Et le disciple n'est pas plus que le maître. Amen. Mais il y a un moyen de sortir de ces angoisses. C'est d'accepter le plan de Dieu. Alléluia. Et d'accepter, nous allions revenir, eh bien, l'action du Saint-Esprit qui relève et qui te donne la force, eh bien, pour, eh bien, passer au travers, eh bien, des temps difficiles. Et mes frères et sœurs, si je m'adresse ainsi et si je nous adresse cet avertissement et cet enseignement de venir à un aliment qui soit solide, c'est que nous avons eu quand même un avertissement dans les mois qui viennent de passer. Et à chacun de faire, en quelque sorte, une espèce de petit bilan de compétences au travers de ce confinement. Il y a eu des choses positives, mais il ne faut pas se voiler la face. Il y a eu aussi des défaillances, des faiblesses. Et mes frères et sœurs, c'était simplement être enfermés dans le confort de nos maisons. Nous n'avons pas vécu ce que certains vivent actuellement, la prison, la guerre, la privation, etc., la nudité, la faim, comme le dit eh bien, l'apôtre Paul dans Romains 8. Et mes frères et sœurs, peut-être avons-nous besoin de dire, mais Seigneur, lorsque tu vas venir, est-ce que je serai debout? Parce que l'Écriture nous dit ceci, allez, on le lit encore, Luc 21 cette fois-ci, vous êtes toujours là, hein? Gloire à Dieu. Luc 21, verset 36. Il nous est dit ceci, « Veillez donc et priez. » Ah, Jésus a dit « Veillez et priez » à Gethsémané, mais il le dit là, c'est l'enseignement sur les temps de la fin, « Veillez et priez, nous est-il dit, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme, c'est-à-dire devant Jésus. » Alors, le danger, mes chers frères et sœurs, c'est mon deuxième point, et pendant que je dis ce deuxième point, vous retournez à Marc 14, c'est de négliger, eh bien, de prendre une nourriture solide. C'est de négliger, eh bien, de se nourrir. Il y a des parents au milieu de nous, on a des ados, et c'est bizarre la façon dont ils ont de se nourrir aujourd'hui. Je me souviens, lorsque j'étais au lycée, au collège, on transigeait pas, il y avait, c'était la cantine. Voilà, pour tout le monde, alors je me souviens de ces plats, des fois, à la cantine. Je me souviendrai toujours de ce plat de langue de bœuf. Une quinzaine de langues de bœuf, comme ça, là, avec du capre dessus. J'en tremble encore quand je vous en parle. Voilà, bon, bref, voilà. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que, allez, j'ai pas le temps... Voilà, les emplois du temps sont serrés, j'ai qu'une heure pour manger, je prends une barquette de taboulé, je me prends un snack à côté, etc. On mange sur le pouce, on se dit, mais qu'est-ce que c'est cette façon de se nourrir? Alors bon, je ne veux pas regretter le passé, hein, ni la langue de bœuf, mais on comprend qu'il y a quand même une autre façon de se nourrir. Et on s'aperçoit qu'il y a des enfants qui, eh bien, développent eh bien, toutes sortes de carences, et pourtant, on dira, mais j'ai bu un bol de lait ce matin. Ouais, mais ça suffit pas. Ça ne suffit pas, mes frères et sœurs. Et l'Écriture nous dit tout à l'heure, nous n'allons pas revenir aux choses sans cesse et sans cesse, aux choses, fondamentales. Et là, il nous est dit la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et du jugement. Ça nous parle de trois choses indispensables. C'est la base de la base quand on marche avec le Seigneur. La repentance et la foi, ça nous parle du salut. Voilà. Je pense que pour la plupart, nous avons accepté Jésus, alléluia. Nous savons ce que c'est la repentance, la remise en question de soi-même, et puis la foi pour être sauvé, alléluia. La doctrine des baptêmes et l'imposition des mains, ça parle de la vie de l'Église. Le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, et ensemble on prie pour que les malades soient guéris, alléluia. Gloire au Seigneur, amen, gloire à Dieu. Ça c'est la vie de l'Église. Et puis notre espérance, la résurrection et le jugement éternel. On le sait, un jour, on rencontrera le Seigneur, nous participerons à cette résurrection. Par contre, celles et ceux qui n'ont pas accepté Jésus, seront jugés pour leurs péchés, puisqu'ils ont rejeté, que leur dette soit payée. La dette sera quand même payée, mais d'une autre manière. Et je voudrais dire à quelqu'un encore une fois, accepte Jésus pour ton Sauveur et pour ton Seigneur. Alléluia. Mais ces choses-là, mes frères et sœurs, nous les savons. Et nous voulons les prêcher, nous voulons les garder, c'est le socle solide de notre foi, mais nous voulons comprendre que nous avons besoin de grandir également spirituellement. Et comme l'Écriture le dit, d'arriver à une pensée qui soit bien faite, qui soit parfaite. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant de Dieu ? Je retourne à Marc au verset 14. Vous êtes toujours là ? Et nous lisons au verset 48 ceci. Donc, entre deux, Judas arrive, par rapport à ce que nous avons lu. Il trahit le Seigneur, il indique c'est lui, Jésus. Terrible, hein ? Parmi les 12, il y a un traître. C'est bon, je laisse ça à votre réflexion. Et verset 47, il nous est dit, « Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. » Vous savez qui c'est celui-là ? C'est Pierre, hein ? Heureusement qu'il a mal visé. Hein. Il a voulu lui faire croire que ça y est, moi je vais te sauver, Seigneur, rien du tout. Hein. L'épée. Et Jésus, prenant la parole, leur dit : Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous enseignant dans le temple et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Et regardez en particulier. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. C'est particulier, hein, ça nous fait sourire un petit peu, c'est vrai. Hein, quelle honte. La façon de s'habiller dans l'Antiquité, elle était comme ça. Hein, il n'y avait pas tout l'attirail que nous avons aujourd'hui. Mais je voudrais vous faire remarquer une chose, c'est qu'il y a quand même une notion spirituelle. Ce drap, ce vêtement blanc, ça nous parle de la justice que Dieu nous a donnée, alléluia. Et je répète, c'est le béaba. C'est quand on a accepté Jésus, notre honte est cachée. Alléluia. Il y a un beau chant que j'aime bien qui dit ceci, « Quand il me regarde, Dieu ne voit plus ce que j'étais, mais il voit Jésus. » Alléluia. « Je suis revêtu du manteau de sa justice. » Alléluia. Et le Seigneur nous revêt de... Mais vous avez remarqué que dans l'épreuve, il lâche son vêtement. Sa honte réapparaît, vous avez souri, il est nu, et il s'enfuit. Certains commentateurs nous indiquent que certainement ici, il s'agit de Marc, l'auteur justement de cet évangile, qui donne ce détail parce qu'il a vécu en particulier. Et le Saint-Esprit veut nous faire remarquer une chose, c'est que malgré l'amour, il suivait Jésus. Mais malgré l'amour qu'il avait à l'égard du Seigneur, mais faute d'une nourriture solide, il n'a pas pu résister, il n'a pas pu tenir, il n'a pas pu garder ce que Dieu lui avait donné. Alléluia. Pour une certaine église de l'Apocalypse, Jésus dira ceci, « Retiens ce que tu as. » Mais encore faut-il avoir les moyens de retenir ce que nous avons. Vous voyez ? Il y a un humoriste qui m'a fait rigoler. On a le droit de rire de temps en temps. Hein. Voilà, c'est pas interdit. Hein. Voilà. Gloire au Seigneur. Amen. Et il a dit, « Mais moi, j'ai, Je suis allé dans une certaine station de métro de Paris. Il y a quelqu'un qui m'a dit, alors il est épais comme un fil de fer, cet humoriste. Il a dit, mais moi, donne-moi ton téléphone. Alors je lui ai dit, je vais répondre par l'humour 06, 07. Il m'a arraché mon téléphone. Vous voyez, hein, pas costaud du tout. Je crois qu'à Cannes, ça ne t'arriverait pas, ça. Hein, voilà. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, hein ?
Eh ouais.
Et l'Écriture nous enseigne à être fortifié, à être en capacité de garder ce que nous avons reçu. Le cas de Marc est un cas symptomatique d'un chrétien, d'une chrétienne qui aime le Seigneur de tout son cœur, mais qui, comme Pierre, s'est endormi sur cet état, spirituel. Oui, j'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Il a acquis pour moi, ce salut merveilleux. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Mais tu as oublié qu'il y a des ennemis. Tu as oublié, qu'il y a des épreuves et que même si rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu, mais il est quand même écrit qu'il y a de l'opposition, il y a l'épée, il y a toutes sortes d'épreuves qui sont là à tes côtés. Et le Seigneur veut nous encourager à avoir faim d'une nourriture solide. Seigneur, tu vas revenir me chercher. Mais lorsque tu vas revenir nous chercher, est-ce que je pourrai, Seigneur, paraître debout devant toi? Et peut-être quelqu'un a-t-il besoin, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que doit-il m'arriver pour que je puisse garder ce vêtement blanc et que je ne puisse pas m'enfuir lorsque l'épreuve est là? Et peut-être quelqu'un au milieu de nous a vécu déjà une défaite, et c'est ainsi qu'il faut appeler les choses, une défaite. Comment faire? Comment réagir, Seigneur? Je voudrais, avant que nous allions plus loin, en terminer avec le cas de Marc. L'Écriture nous parle de Marc par touches successives. Elle nous parle que c'était un jeune homme engagé. Dans Actes 10, on voit que dans la maison de sa mère, l'Église se rassemble. On voit que c'est un jeune homme qui veut servir le Seigneur parce que Paul et Barnabas le prennent avec lui. Mais on s'aperçoit encore une fois que c'est quelqu'un qui est fragile. Dans la première mission de Paul, c'est trop dur pour lui. Il retourne chez sa mère. Et quand Barnabas veut le réintroduire, Paul dit non. Là, il nous a lâchés une fois, pas deux, hein, c'est bon. Hein. Et puis, c'est tellement fort. Puis, l'apôtre Paul, caractère, hein, vous voyez, fort. Moi, Barnabas, tu fais ce que tu veux, mais moi, je ne le prends pas. Barnabas dit, moi, je vais le prendre. Tu te souviens, Paul? Je vais le prendre comme je t'ai pris au tout départ, au tout début, quand personne ne voulait de toi. Allez, on va reprendre et on va retourner à Chypre. Et l'apôtre Paul dira, alors j'ai plein de références, mais je ne vais pas, voilà, dans 2 Timothée au chapitre 4 et au verset 11, parlera de Marc comme quelqu'un qui est complètement changé, transformé, et il dira, venant de l'apôtre Paul, c'est vraiment un compliment, il m'est utile pour le ministère. C'est ça? Ah voilà, Luc seul est avec moi, il est en prison, hein. c'est la dernière épître de Paul, et il dira, prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Donc il y a eu un changement, et je voudrais dire à quelqu'un, un frère, une sœur, qui peut-être a vécu quelque chose qui est pour lui une honte, qui est pour lui une tâche, tu t'es enfui devant l'ennemi, tu n'as pas su résister, mais le Seigneur n'en a pas terminé avec toi, alléluia. Il veut te donner les armes, pour que tu puisses, te relever. Il veut te reformer, il veut te ramener, à ce que tu as perdu, à ce que tu as gardé. Si toutefois, tu as faim d'une nourriture solide. Parce que je reviens à mes gars qui font du bodybuilding, là, pour avoir du muscle, pour avoir de la force. Alors, j'ai pas d'action dans une salle de sport. Hein. Voilà, hein, si voilà, comprenez bien, je vous engage. Voilà, c'est pas. Hein. Mais il faut se nourrir. Il faut avoir faim, de Jésus. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 15 et au verset 30, il nous est parlé d'une foule, qui se réunit autour du Seigneur. Une foule qui a faim de Jésus. Une foule qui a laissé, son travail, qui a laissé l'urgence de ses préoccupations. Peut-être ils ont un emploi du temps ultra chargé. Peut-être que c'est quelque chose, d'inouï pour eux. Mais ils ont réussi quand même à mettre du du temps à part pour chercher la face de Dieu. Alléluia, ils ont mis tout de côté. Ils sont même venus avec leurs enfants, leur famille, peut-être la grand-mère. Ils ont dit, voilà, ou le petit dernier-né, mamie, tu le gardes. Voilà, et moi, nous, on va chercher le Seigneur. Alléluia. Et l'Écriture nous dit que, eh bien, Jésus va faire un miracle, vous savez. C'est sa seconde multiplication des pains. Et il donne, eh bien, ce détail dans Matthieu 15 au verset 32. Eh bien, je veux leur donner des forces afin que, eh bien, ils ne défaillent pas en chemin. Et nous aussi, on est en chemin. Et le Seigneur veut te fortifier, alléluia, te remplir de sa vie pour que tu sois un homme, une femme, eh bien, changé, différent, qui puisse supporter l'épreuve, qui change de mentalité. Lorsque Jésus se trouve à Gethsémané, dans l'évangile selon Luc, au chapitre 22, il nous est donné un autre détail, versets 42 à 46, on ne va pas le lire, mais il nous est dit qu'un ange parut pour le fortifier. Le Seigneur a eu besoin d'un... Humainement parlant, certainement avec les grumeaux de sang qui tombent, quelle angoisse. Certains commentateurs disent, mais ça c'est le signe d'une profonde angoisse. Et un ange parut pour le fortifier. Si celui qui est l'homme parfait, Jésus, le Fils de Dieu, a eu besoin d'un ange pour le fortifier, à combien plus forte raison toi aussi tu as besoin du Saint-Esprit pour qu'il te relève, alléluia. Et tu as besoin de venir passer des temps dans la prière. Chercher chercher la victoire auprès de celui qui t'aime, alléluia. Mes frères et sœurs, c'est ça la nourriture solide. Seigneur, tu m'as appelé à vivre une vie où je jouis d'un bonheur extraordinaire de savoir que tu es le Sauveur, mais il y a un adversaire qui me veut m'enlever cette joie, cette paix, ce bonheur. Et Seigneur, comment faire pour résister? Mais il faut que je te consacre ma vie. Et je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, il n'y a pas de demi-mesure. Où on aime son maître, ou on ne l'aime pas. Où on le sert, ou on le méprise. Et je crois que vraiment, l'Église de Christ, dans ces temps qui sont les derniers, devra son salut dans un renouvellement de consécration. Et de dire, Seigneur, c'est toi seul que je veux servir, alléluia. C'est toi que je veux, eh bien, suivre, alléluia. Même s'il m'en coûte, eh bien, peut-être dans mon emploi du temps, dans l'élaboration de mon planning, etc. Mais Seigneur, je veux te faire passer en premier. Parce que Seigneur, je ne suis pas plus fort que les autres. Et si certains se sont laissés emporter comme Marc, eh bien, moi aussi ça peut m'arriver. Mais à moins que je consacre ma vie, alléluia, comme cette foule, eh bien, je délaisse, eh bien, ces choses qui peuvent être importantes pour un temps, eh bien, pour chercher, eh bien, le soutien dont j'ai besoin. La vie de l'esprit, alléluia, goûter une nourriture solide. Je me suis toujours posé la question comment l'église de Jérusalem, vous savez, dans les Actes des Apôtres, la toute jeune église de Jérusalem, comment elle a fait pour tenir? Parce que, première église, hein, tous ceux qui sont là, intellectuellement, c'est pas non plus le top. Hein. L'apôtre Paul, il n'est pas encore là. Pierre, c'est un pêcheur à la ligne. Les autres, voilà. Puis, ils sont fragiles. On a vu Pierre, bon, il renie, bon, il est rétabli, etc. On s'aperçoit que c'est pas, j'allais dire, l'élite, entre guillemets. Mais comment ils font pour tenir? Ils persévéraient. Et ils persévéraient dans quatre choses. Dans l'enseignement de la parole de Dieu. Il persévérait dans la prière, dans la fraction du pain, et il persévérait dans la communion fraternelle. Et mes frères, mes sœurs, il me semble que nous avons besoin de revenir à cet essentiel-là, de retrouver ces persévérances pour cette nourriture forte dans une vie de prière, de communion fraternelle. Tout à l'heure, quelqu'un priait. En disant, Seigneur, c'est vrai, premier commandement, eh bien, c'est de t'aimer toi. Le deuxième, c'est d'aimer son prochain. Mais comment je peux aimer mon prochain si je ne le vois pas? Comment je peux aimer mon prochain si une fois par semaine, je le vois et encore en courant d'air? Je vous place là sur mon cœur, ce que j'ai sur le cœur. Et je crois vraiment qu'on a besoin peut-être de créer dans le programme de l'Église d'autres moments qui nous permettent à certains d'entre nous qui sont éloignés géographiquement de ce lieu, eh bien de pouvoir se retrouver du côté de Cournon-Terral, de Pignan, de Prades, etc. De pouvoir partager, de pouvoir avoir la joie de se retrouver, de prier ensemble. Alléluia. Amen. Amen. Parce que besoin de fortifier sa vie, de passer par un engagement, passer par eh bien, un soutien, un service eh bien, pour le Seigneur. Et lorsque je lis l'Écriture, mais je m'aperçois que ces gens, je parle de Pierre, etc., mais ils sont forts dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres. On le voyait mardi, jeudi après-midi, quand il y a quelqu'un qui commence avec une histoire d'argent, essaye de soudoyer l'honnêteté de tout le monde, il fait croire qu'il donne l'intégralité du prix d'un champ, mais en fait, il en a retiré une partie. Mais tout ça, c'est pour plaire aux apôtres, parce qu'ils ont vu que... Heureusement que Pierre est rempli du Saint-Esprit. Il ne se laisse pas aller dans cette fraude. Et il est fort pour démasquer cette malhonnêteté dans l'Église et que la vérité soit maintenue. Alléluia! Ce que tu cherches, c'est à plaire aux hommes, mais tu ne cherches pas à plaire aux dieux. Que ton argent périsse avec toi. Il faut le dire, ça. Alléluia. Amen. Et mes frères et sœurs, nous sommes face à toutes ces tentations également, et nous avons besoin eh bien, de revenir à un aliment solide. Seigneur, peu importe si je souffre pour ma foi, mais ce qui compte pour moi, c'est d'être fidèle et de marcher dans tes voies. Alléluia. De rester attaché à ta parole. Et tout cela, on le pourra si eh bien, on nourrit notre cœur eh bien, de Jésus. Alléluia, de manger cette nourriture eh bien, qui soit solide et manger. Alors c'est bizarre, je me suis dit en préparant ces choses-là, après on va avoir un jeûne et prière et je parle qu'il faut manger. Bon, mais voilà. Mais manger, c'est assimiler. Manger, c'est faire en sorte aussi qu'il y ait tous ces aliments, ces ingrédients qui eh bien, nous fortifient intérieurement, prendre le temps eh bien, d'être fortifié, d'être renouvelé, d'une nourriture qui nous permet eh bien, d'avancer. L'Écriture est riche en exemples pour nous montrer que des hommes ont réussi à persévérer parce qu'ils se sont appuyés sur le Seigneur. Alléluia. Je pense notamment à Abraham, qui, par la foi et la persévérance, a hérité des promesses. Il a fallu persévérer. La joie d'avoir une promesse, j'aurai un héritier de postérité, mais la persévérance pour arriver jusqu'à ce moment-là, et il y a des larmes qui ont coulé, et il y a eu des erreurs, il a fallu se repentir et repartir. Mais Dieu a été toujours là, alléluia! Et je voudrais te dire ceci, mon frère, ma sœur, ton Dieu n'a pas changé. Il pardonne encore. Alléluia. Le Seigneur se met à ta portée et il veut t'enseigner à marcher dans la sanctification, t'apprendre à renoncer à toi-même. Mais il faut y passer par la croix. Parfois besoin, lorsque les vies piétinent avec le Seigneur, de dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui me retarde? Qu'est-ce qui m'empêche? Parfois, si je reprends l'exemple d'Abraham, il a dû se séparer même de l'influence de certains membres de sa famille. Lot, charnel, Lot. Type d'incroyant charnel. Il y a eu une séparation. Sarah, écoute, on ne va plus suivre nos propres conseils. On a une parole de Dieu, on va se séparer d'Agar. Voilà, on ne va plus marcher charnellement. Et ça va aller jusqu'à même vouloir accepter de se séparer d'Isaac, mais il va le retrouver, alléluia. Mais il y a une vie de consécration et Dieu sera toujours au rendez-vous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et la puissance de Dieu s'est toujours manifestée. Amen. Alors, chers frères et sœurs, pour ne pas manquer de carence, on a besoin de revenir eh bien, à celui qui est le pain de vie, à celui qui nous nourrit, à celui dans lequel nous avons une complète victoire. Alléluia. Mais avoir ces échanges avec lui. Avoir ces échanges, alléluia, cette communion, amen, alléluia. Permettez-moi de vous poser cette question. Est-ce que cette relation avec le Seigneur, cette communion avec Christ, elle a lieu que ce matin? Ou est-ce qu'elle a lieu à d'autres moments? Est-ce qu'elle a lieu tous les jours? Est-ce qu'elle a lieu même plusieurs fois par jour? Où vous avez cette relation, cette communion? Si je ne suis pas, je veux juger personne, mais si une activité, une relation vous empêchait d'avoir ce temps de cœur à cœur avec Christ, réfléchissez et organisez-vous pour que prenez des décisions pour que vous puissiez revenir au pied du Maître. Parce que c'est de cette relation-là eh bien, que vous pourrez continuer la marche et que vous pourrez eh bien, vaincre au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais qu'on prie le Seigneur quelques instants. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ces quelques instants, Seigneur, que nous avons passés. Seigneur, nous te louons, Seigneur, parce que tu nous fais du bien. Et Seigneur, tu nous avertis, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, nous nourrir d'une nourriture qui soit solide. Seigneur, nous laisser sonder par ta parole, de revenir, Seigneur, à une communion fraternelle solide. Seigneur, pas des bonjours au revoir d'un dimanche matin, mais Seigneur, une connaissance, une relation. Seigneur, voulons faire des progrès à cet égard également. Et puis, Seigneur Jésus, également, Seigneur, comprendre que, Seigneur, tout vient de toi encore. Seigneur, voulons revenir, Seigneur, à la croix. Seigneur, et accepter, Seigneur, cet appel. Seigneur, parfois nous avons pu prêcher, Seigneur, peut-être un évangile facile où, Seigneur, nous n'avons parlé que de bénédiction, que de satisfaction. Mais, Seigneur, quand on te suit, il n'y a pas que des bénédictions. Il y a aussi des épreuves. Il y a aussi des douleurs. Il y a aussi, Seigneur, des moments où il faut résister. Alors, Seigneur Jésus, je te prie afin que, Seigneur, nous prenions les bonnes dispositions, les dispositions qui s'imposent, Seigneur, pour notre salut, mais également pour le salut de celles et ceux qui nous entourent, de revenir à une nourriture solide. J'ai besoin de lire ta parole, d'être fidèle dans la prière. Alléluia. Dans le témoignage, dans la vie de l'Église. Amen. Seigneur, à toi la gloire. Alléluia. Alors, tandis qu'on est sous le regard de Jésus, peut-être quelqu'un a-t-il besoin de prendre cette disposition-là. C'est vraiment dans votre cœur. C'est vraiment dans votre cœur. Et s'il vous en coûte, et il en coûtera toujours quelque chose, bien dites-lui, Seigneur, mais Seigneur, je veux reprendre cette place. Alléluia, je veux reprendre cette place. À toi la gloire. Alléluia. Quelques secondes là, sous le regard de Jésus. C'est entre vous et le Seigneur. En entendant la voix du Seigneur qui vous dit, mais je t'appelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Nous te bénissons, Jésus. Nous te rendons grâce. Merci, Père Céleste. À toi toute la gloire, Jésus. Amen. Amen.